quatre gueules. Des pilules, des pitchers. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si se passe. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio libre de la Fédération anarchiste et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et bonjour, aujourd'hui on va parler des légiférations au Conseil constitutionnel autour de la fin de vie et des directives anticipées à travers trois articles de presse. Avec André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, association qui lutte pour les droits des patients et contre les hospitalisations abusives. Alors, on va parler donc des dernières décisions jurisprudentielles, donc autour de l'euthanasie, mais pour se questionner aussi de qu'est-ce qu'on fait de ça par rapport aux directives anticipées en psychiatrie. Alors, on évoque ce débat actuel sur la fin de vie à travers cet article du 10 novembre 2022, cet article du Monde, fin de vie. Dans une décision qui fera jurisprudence, le Conseil constitutionnel se prononce sur le respect des directives anticipées par les médecins. La famille d'un médecin qui va exprimer le souhait d'être maintenu en vie, même artificiellement, contester un choix médical de l'hôpital de Valenciennes qui prévoit un arrêt des traitements en raison d'une obstination déraisonnable. C'est-à-dire que malgré les directives du patient, enfin de la personne, le médecin a passé outre étant donné la situation. La Constitution n'oblige pas les médecins à respecter la volonté d'une personne exprimée dans ses directives anticipées, fût-ce son souhait d'être maintenu en vie coûte que coûte. Le Conseil constitutionnel a rendu, jeudi 10 novembre, une décision qui fera jurisprudence. La loi Claeys-Leonetti de 2016 prévoit en effet que toute personne majeure peut exprimer par écrit la manière dont elle veut être accompagnée par les médecins et si sa vie est en danger. Ses volontés doivent être respectées, mais à certaines conditions seulement. La décision des occupants de la rue de Montpensier visait à trancher une question prioritaire de constitutionnalité posée par la famille d'un homme admis dans le coma en juillet 2022 à l'hôpital de Valenciennes, Nord, après avoir été écrasé par le camion qu'il réparait. Victime de multiples fractures et d'un arrêt cardio-respiratoire, l'homme âgé de 43 ans avait été pris en charge en réanimation. Les médecins ont considéré qu'il était préférable, en juillet 2022, d'arrêter les traitements et les actes prodigués. Ils ont estimé que leur poursuite n'aurait pour effet que de le maintenir en vie artificiellement en ne lui permettant qu'une qualité de survie catastrophique. Ils se sont fondés sur la loi Claeys-Leonetti qui autorise l'arrêt des traitements lorsqu'il résulte d'une obstination déraisonnable. Ce patient avait rédigé en juin 2020 des directives anticipées demandant à être maintenu en vie, même artificiellement, s'il était plongé dans un coma jugé irréversible. La famille, résolue à s'opposer à l'arrêt des soins, a saisi le juge des référés au tribunal administratif qui lui a donné tort. Elle a fait alors appel devant le Conseil d'État tout en lui soumettant une QPC transmise au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité. Juridiquement, la QPC conteste la conformité à la Constitution de l'alinéa 3 de l'article L1111-11 du Code de la Santé publique qui prévoit la possibilité pour un médecin de refuser d'exécuter les directives anticipées s'il estime qu'elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. L'avocat de la famille, Ludwig Pringent, avait plaidé lors de l'audience du 25 octobre que Ces deux exceptions laissaient aux médecins une marge d'appréciation trop importante qui pouvait déboucher sur une décision contraire au principe de la dignité de la personne, au respect de la vie humaine, à la liberté personnelle et à la liberté de conscience, tous ces droits-là garantis par la Constitution. De son côté, l'avocat de l'hôpital, Claire Vaquet, avait fait valoir que la décision de l'hôpital de Valenciennes avait été prise en conformité avec la loi qui fait obligation aux médecins de refuser toute obstination déraisonnable. Le Conseil constitutionnel a jugé l'article L1111 conforme à la Constitution en considérant que les expressions inappropriées ou non conformes à la situation médicale ne sont ni imprécises ni ambiguës. Elles donnent effectivement au corps médical une marge d'appréciation des directives anticipées. Ces exceptions permettent ainsi de refuser des soins ultimes qui pourraient s'assimiler à de l'acharnement thérapeutique. Etc. Eh bien, nous allons écouter donc cette discussion que nous avons eue il y a deux jours avec André Bitton à ce sujet.
C'est exact ce combat. On va démarrer sur une chose. Donc, le Conseil constitutionnel avait été saisi il y a deux mois sur la question des limitations à apporter aux directives anticipées fin de vie dans la mesure où des directives anticipées ont été prises avant. C'est-à-dire qu'au contraire de l'affaire Lambert, où il n'y avait pas de directive anticipée parce qu'elle n'existait pas encore, ce n'était pas encore prévu, là, dans le cas d'espèce, c'est un ouvrier franco-maghrébin mort sur un chantier suite à un accident du travail, eh bien, des directives anticipées avaient été prises, constituées et déposées, et les membres de la famille avaient fait valoir qu'ils s'opposaient et qu'ils s'opposent à ce qu'il soit mis fin au jour du patient dans un état végétatif. Donc ils s'étaient pourvus, à l'hôpital, sur une décision collégiale ou pas, ils avaient entendu mettre fin au jour du patient pratiquement gravataire. La famille s'était pourvue en référé Conseil d'État, en référé TA, pardon, référé tribunal administratif, en procédure d'urgence de type référé liberté. Et d'autre part, ils avaient été rejetés, d'autre part devant le Conseil d'État, puisque la voie d'appel, dans le cas des référés en juridiction administrative, c'est directement le Conseil d'État en cours de cassation, en appel et cassation. Et devant le Conseil d'État, ils avaient déposé des conclusions afin de QPC, de questions prioritaires de constitutionnalité, sur l'article de la loi de 2016 de Claes Leonetti, sur les directives anticipées sur la fin de vie, l'article 1111-1111-1, du Code de la Santé publique, qui prévoit une clause restrictive sur le fait que les directives anticipées doivent être suivies des faits. Bien, et cette clause restrictive est la suivante. Les directives anticipées, je cite, l'article s'impose aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. C'est-à-dire qu'il y a deux conditions, comment dire, restrictives. Les directives anticipées s'imposent aux médecins, donc également à l'équipe hospitalière, pour toute décision d'investigation, intervention ou traitement, sauf en cas d'urgence vitale, le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Donc c'est ces clauses restrictives qui ont été attaquées en inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État a déféré cette QPC au Conseil constitutionnel pour qu'il y soit statué. Et finalement, le Conseil constitutionnel, par une décision du 10 novembre passé, donc on est là, on va être le 16 au moment de la diffusion, a statué conforme à la Constitution les clauses restrictives, avec néanmoins un considérant qui est intéressant et qui ouvre des perspectives, et on va voir en quoi ça s'applique au terrain psychiatrique. Alors, notamment des considérants 10, 11 et 12. Alors, pour le considérant 9, il est marqué, l'article L1111-11 du Code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées qui, en principe, s'imposent aux médecins. Dans le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, bon, en ce qui concerne les conditions de la poursuite de la limitation de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Les dispositions contestées de cet article permettent aux médecins d'écarter ces directives anticipées lorsqu'elles sont inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Alors, en premier lieu, en permettant aux médecins d'écarter des directives anticipées, le législateur a estimé que ces dernières ne pouvaient s'imposer en toutes circonstances dès lors qu'elles sont rédigées à un moment où la personne ne se trouve pas encore confrontée à la situation particulière de fin de vie dans laquelle elle ne sera plus en mesure d'exprimer sa volonté en raison de la gravité de son état. Ce faisant, il a entendu garantir le droit de toute personne à recevoir les soins les plus appropriés à son état et assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie. Le considérant 12, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, donc le pouvoir législatif, de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions dans lesquelles un médecin peut écarter les directives anticipées d'un patient en fin de vie hors d'état d'exprimer sa volonté dès lors que ces conditions ne sont manifestement pas inappropriées à l'objectif poursuivi. 13. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent aux médecins d'écarter les directives anticipées que si elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, ces dispositions n'étant ni imprécises ni ambiguës. Par ailleurs, et c'est là où ça nous intéresse, la décision du médecin ne peut être prise qu'à l'issue d'une procédure collégiale destinée à l'éclairer. Elle est inscrite au dossier médical et portée à la connaissance de la personne de confiance désigné par le patient ou à défaut de sa famille ou de ses proches. On voit le rôle important de la personne de confiance. Considérant 15, en dernier lieu, et là ça va concerner le terrain psychiatrique, la décision du médecin de passer outre les directives anticipées est soumise le cas échéant au contrôle du juge. Ah. Dans le cas où est prise une décision de limiter ou d'arrêter un traitement de maintien en vie au titre du refus de l'obstination déraisonnable, cette décision est notifiée dans les conditions permettant à la personne de confiance ou à défaut à sa famille ou à ses proches d'exercer un recours en temps utile, le dit recours étant suspensif, hein, bon, en espèce de l'arrêt des traitements.
Par exemple, si le médecin dit acharnement thérapeutique, on arrête tout. La famille peut répondre.
La famille et la personne de confiance peut répondre. Deux minutes, on va exercer un recours pour essayer de se faire entendre parce qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ce qui s'était passé dans le cadre de l'affaire Lambert. Et là, donc, s'il y a un recours judiciaire, enfin juridique, là en l'espèce pour l'audition hospitalière, c'est la juridiction administrative, et que, donc c'est du recours en référé, donc en urgence, et que la juridiction administrative finalement rejette les recours, alors oui, le médecin et son équipe, sur décision collégiale, peuvent reprendre l'arrêt du traitement. Ce qui s'est passé pour l'affaire Lambert. Et là-dessus, il y avait eu un rajout à cet article de la loi Claeys-Leonetti 2016, par ordonnance en 2020, concernant les personnes majeures protégées, à savoir que les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection à la personne, pas une mesure de protection sur les biens, la curatelle sur les biens, mais sur la personne elle-même.
La tutelle.
La tutelle complète avec tutelle à la personne. La curatelle peut aussi être une curatelle à la personne, mais bon.
D'accord.
Bon. Donc, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion, pour éviter les manipulations. Hein. Par exemple... Donc, oui, il y a eu un garde-fou. Donc, finalement, on en arrive, en appliquant cela au champ psychiatrique sur ce qui s'est passé, ce qui a été développé par le programme expérimental, notamment avec Frédéric Mougeot, la docteure Aurélie Tinland, Frédéric Mougeot qui est un sociologue, et des médiateurs de santé pairs, hein, également, des pairs aidants, hein, médiateurs de santé pairs, patients, ex-patients, professionnalisés, qui ont implémenté, sur un programme financé hein, par les ARS, par la PHM, notamment, implémenté, enfin introduit dans les hôpitaux, avec l'accord des directions d'hôpitaux, dans le dossier patient informatisé, une clause sur les directives anticipées patients psychiatriques, les mesures d'anticipation. par le colloque qui a lieu le 16 prochain au ministère de la Santé là-dessus.
C'est-à-dire, voilà, en ce moment, je vais bien, mais si j'ai une crise, je voudrais qu'on me... Voilà,
qu'on me traite ou que vous êtes prise en charge selon telle et telle modalité et pas telle autre. Par exemple, je refuse d'être contentionné. Par exemple, je refuse un neuroleptique abrasif beaucoup trop important. Je refuse tel et tel cocktail et je préfère être prise en charge de telle et telle manière. Bon, je l'indique. Et donc là-dessus, c'est inscrit donc sur le dossier patient informatisé. La famille, le majeur ou si c'est un majeur protégé, curateur, etc., sont prévenus. Une personne de confiance a la charge de porter la parole étant désignée. Et donc, eu égard qu'on avait, d'après cette étude, il avait été remarqué que des personnes qui ont inscrit des directives anticipées ou des mesures ou des préconisations antérieures à une réhospitalisation avaient dans l'ensemble une probabilité nettement moindre, de l'ordre de 30%, d'être réhospitalisées parce qu'ils ont en quelque sorte prévu leur destin.
Oui.
Or, qui dit prévoir son destin dans la prise en charge dit avoir fait un chemin dans une prise de conscience, voilà, etc., et avoir pris en compte son état passé pour à l'avenir prendre telle et telle disposition. Bon, ce qui est intéressant, bon, d'accord. Donc, on peut voir que ce qu'il est intéressant d'appliquer, si on veut, maintenant il en dépend de ce que décideraient les juridictions, donc il en dépend de la jurisprudence, c'est que dans le cas de figure psychiatrique, où une personne a pris des directives anticipées, actuellement appelées, on ne sait pas comment, mesures d'anticipation, puis c'est une querelle sémantique, comment ça doit s'appeler, antérieurement ça s'appelait testament psychiatrique, hein, d'après le réseau européen des juges suivants, bon, des mesures d'anticipation prises par des patients en psychiatrie, bien, ces mesures, à l'occasion d'une réhospitalisation, où le patient a indiqué ses choix, hein, sa volonté d'être traité comme ci et pas comme ça, d'être pris en charge comme ci et pas comme ça, c'est pas pris en compte par l'équipe, par le psychiatre et par l'équipe. Alors, dans ce cas, il semble, si l'on applique la décision du Conseil constitutionnel et si l'on considère qu'elle est applicable et transposable au champ psychiatrique, ce qui n'est pas évident, enfin, on peut toujours essayer, hein, on peut toujours se battre là-dessus, tout au moins, voilà. Alors, dans ce cas, la personne disposerait d'une voie de recours judiciaire en disant, ben, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Et donc, soit elle-même, soit son avocat, soit la personne de confiance, soit ses parents, pourraient éventuellement, si la mesure continue, la mesure de contrainte, saisir le juge des libertés et de la détention en lui disant, écoutez, voilà, il y a là, entre autres, une irrégularité dans la prise en charge, qui est une irrégularité au fond, qui n'est pas une irrégularité de droit formel, mais une irrégularité au fond, qui a porté préjudice au patient. Le patient avait confiance jusque-là dans le dispositif, puisque, il avait même, avec l'aide de Pérédon ou d'une équipe, ou d'aidants quelconques, de professionnels, rédigé des préconisations inscrites dans son dossier auprès de la direction de l'hôpital et auprès du service. Ça n'a pas été suivi, la relation de confiance est entachée, et donc, prière donnée, main levée de la mesure. Alors, si c'est qu'une affaire de main levée, voilà, sachant que dans ce cas, il faudra que la personne reste ou son entourage, ou sa défense, soit de procédurière et épuise les voies de recours. Or, c'est toujours le même problème. En matière psychiatrique, lorsqu'on est procédurier, l'on est en phase paranoïaque. Et donc, l'on est l'objet de représailles. Et représailles pouvant aller pour des personnes en faiblesse ou dépendantes, ce qui est assez ennuyeux, vers une rupture de soins. C'est-à-dire que, bon, bah, d'accord, écoutez, on vous externe, dehors, on ne va plus vous voir sur le CMP, on vous débrouille, nous, des patients qui roulent comme vous, on n'en veut pas. Donc, on vous libère. Vous avez désormais le libre choix, nous aussi. Donc, vous savez, des patients qui roulent, on leur dit vous faites valoir le libre choix du médecin, bah, nous faisons valoir notre libre choix. Adieu. Jusqu'à la prochaine réhospitalisation. Ou alors, si la personne à mesure est levée, faire valoir ce défaut de prise en charge, cette violation de droit, une violation de droit du patient, en tant que pouvant valoir une indemnisation spécifique. Et là, enfin, en quelque sorte, les pistes sont ouvertes. Les pistes sont ouvertes. Donc alors après, il en revient aux acteurs du terrain de voir s'ils trouvent qu'il y a une applicabilité quelconque. On verra ça notamment avec le colloque de mercredi prochain au ministère de la Santé. En tout cas, sur l'application au niveau psychiatrique, qui est lointaine, mais quand même, il y a cela. Alors maintenant, sur la question de l'euthanasie, puisque à l'heure actuelle, y compris le président de la République, on s'orienterait en France vers une légalisation de l'euthanasie.
Oui, il y a un débat sur la fin de vie actuellement.
Il y a un débat qui est réouvert. La France ayant une tradition catholique avec des verrous posés par la conférence des évêques, on l'a vu dans l'affaire Lambert, hein, avec le poids, un certain poids d'une certaine église gouvernementale d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse de catholiques de gauche, de droite, d'extrême droite, de toutes les façons. Voilà. Donc la France est quand même un pays spécifique là-dessus. Ce n'est pas un pays germanique, ce n'est pas un pays anglo-saxon, c'est un pays latin avec toute une tradition à la matière. Bon. Alors, il n'en reste pas moins que s'il y a bien quelque chose qui fait réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passe dans les pays frontaliers autour de la France en matière d'euthanasie. Et là, on est perplexe. Parce que, en effet, la Suisse et la Belgique ont légalisé l'euthanasie, ils ne sont pas les seuls. Bien. Et, par exemple, il y a eu tout récemment, au mois d'octobre, un cas qui vraiment laisse perplexe. Vraiment. Et là, il y a un article du Monde, très bien fait, hein, d'ailleurs, du 7 octobre, en Belgique. Une jeune femme victime des attentats de 2016, des attentats djihadistes, recourt à l'euthanasie pour cause de souffrance psychologique insupportable. Après un long parcours thérapeutique, Shanti de Corté, âgée de 23 ans, a choisi de mettre fin à ses jours en mai. La RTBF, radio-télévision belge francophone, a dévoilé mercredi les conditions de son décès, relançant débats éthiques et médicaux. Donc, mesdames et messieurs, si vous souffrez d'une pathologie mentale invalidante et vraiment désespérante, vous pouvez vous faire euthanasier. Ça ouvre la porte à des dérives absolument scandaleuses. Enfin, continuons l'article. L'histoire tragique de Shanti de Corté suscite l'émoi dans son pays et renvoie la France à ses débats éthiques récurrents autour de l'euthanasie. Après un long parcours thérapeutique et hospitalier, cette Belge de 23 ans, rescapée des attentats à Bruxelles en 2016, a eu recours au suicide assisté le 7 mai. Ils ont sorti ça trois mois après, pour cause de souffrance psychologique insupportable. C'est la RTBF, Service public audiovisuel belge, qui a révélé les dessous du décès de la jeune Flamande, mercredi 5 octobre, dans un épisode du magazine d'information Investigation, consacré aux victimes oubliées des attentats terroristes du 22 mai 16. Les attentats avaient fait 32 morts et plus de 300 blessés. Pas mal. Souffrant d'un mal-être psychologique antérieur à l'attentat et amplifié par le traumatisme des attaques, la jeune femme a souhaité mettre fin à ses jours. Dépression antérieure et traumatisme durable. Shanti de Corté figurait parmi les rescapés du double attentat suicide ayant ciblé le métro de la capitale belge et l'aéroport Bruxelles-Zaventem, au nord-est de la ville. Le jour des attaques terroristes, l'adolescente se trouvait à l'aéroport avec 90 autres élèves du collège Sintrita de Contige dans la région d'Anvers, tous en route pour un voyage scolaire en Italie. Alors que les élèves attendaient dans le hall des départs, les deux terroristes présents sur le site ont actionné l'explosif à quelques mètres d'eux. Le Shanti de Corté ressort physiquement indemne de l'attentat, mais son traumatisme psychique est immense et bien alimenté un mal-être préexistant. Moi aussi, quand j'avais 23 ans, j'étais dans un état de mal-être absolument explosif. Je pense que j'ai fait bien de ne pas me suicider, visiblement. J'ai pu apporter quelque chose. Donc, tu vois. La psychologue de son école d'alors a confirmé à la RTBF avoir reçu une élève qui avait déjà de sérieux troubles psychologiques avant l'attentat, en état de choc post-traumatique au sortir de l'attaque terroriste. Quelques semaines après le 22 mars, Shanti de Corté est hospitalisé dans une structure psychiatrique anversoise, un endroit qu'elle connaît bien puisqu'elle y a déjà fait plusieurs séjours avant les attentats, précise le média belge. La jeune femme passe alors sous un lourd traitement antidépresseur, ce qui n'arrange rien. Bon, parce qu'il y en a qui sont des traitements antidépresseurs, le contre-effet, c'est vrai, et entame un cycle d'aller-retour à l'hôpital qui va durer 6 ans. En 2020, Chanty de Corté fait une tentative de suicide qui n'est pas la première. Son traitement médicamenteux est alourdi. De jump médicamenteux. Et l'inquiétude de son entourage augmente. Ses amis, une thérapeute, lui propose de rejoindre un programme thérapeutique spécifiquement créé pour les victimes des attentats de Bruxelles qu'elle décline. On lui a proposé. Bien. Un programme thérapeutique. Hein. Ça va, c'est un programme thérapeutique. Ça va, j'ai même.
Après, thérapeutique par rapport aux gens
aux attentats.
Et un traumatisme.
Voilà, non, ça c'est d'accord. Après avoir formulé plusieurs demandes d'euthanasie jusqu'ici refusées, l'étudiante se rapproche de la LAIF, une nation qui défend le droit de mourir dans la dignité. Sa nouvelle demande, formulée en avril 2002, est cette fois validée par deux psychiatres. Chanty de Corté est euthanasié selon son souhait, entouré de sa famille le 7 mai. Interrogation médicale et éthique. La décision d'accorder le droit à l'euthanasie à Chanty de Corté, seulement âgé de 23 ans et rescapé d'un attentat, suscite depuis sa mort et la diffusion du reportage des interrogations médicales et éthiques. Un neurologue du CHU bruxellois Brugmann, Paul Deltenre, qui est intervenu dans le dossier, a notamment estimé, Deltenre, auprès de la RTBF, que l'euthanasie n'aurait pas dû avoir lieu car d'autres propositions de soins avaient été formulées à la jeune femme. Le parquet d'Anvers a lui ouvert une enquête sur les faits suite à un signalement avant de classer l'affaire, concluant que la procédure avait été respectée. Interrogée par la RTBF, la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie a de son côté expliqué que la loi avait bien été respectée, que la jeune fille était dans une souffrance psychique telle que sa demande a été logiquement acceptée. Excuse-moi, mais franchement, là, il y a des problèmes. Hein. Alors, je continue quand même. Alors, en Belgique, où l'euthanasie est autorisée depuis 2002, la diffusion du reportage dévoilant la fin de vie choisie par Chanty de Corté a toutefois été décriée. Par la voix de leur avocat, les proches de la défunte ont demandé à ce que leur vie privée, leur tranquillité soient respectées, note notamment le média en ligne 7 sur 7. Il précise aussi que la famille, qui a refusé de répondre aux sollicitations de la RTBF, a émis des réserves sur le respect de la déontologie et de l'éthique, estimant que le reportage contenait plusieurs erreurs fondamentales. Que dit... Alors, il y a une... Bon, voilà, la famille s'est rangée, hein, finalement. Et ça, c'est douteux. Parce que quand on sait qu'en psychiatrie, la majorité des mesures de soins sans consentement sont demandées par les familles, c'est vraiment douteux. Que dit la loi belge sur l'euthanasie ? La Belgique est l'un des premiers pays européens à avoir autorisé l'euthanasie, mort provoquée par un soignant sur demande d'un malade, il y a 20 ans. Elle admet avoir une définition élargie des conditions rendant possible l'euthanasie. La Belgique admet avoir une définition élargie des conditions rendant possible l'euthanasie. Le texte de loi précise que la demande formulée par le patient doit être volontaire, réfléchie, répétée, sans pression extérieure. Il souligne que le médecin ne commettra pas d'infraction dès lors que le patient victime d'une souffrance physique ou psychique, constante et insupportable, des suites d'une affection accidentelle ou pathologique incurable, se trouve dans une situation médicale sans issue. Comme dans le cas de Chanty de Corté, un second avis médical est nécessaire lorsque le décès du patient n'interviendra manifestement pas naturellement à brève échéance. L'annonce des circonstances de la mort de Chanty de Corté a également eu lieu au lendemain de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de condamner l'État belge pour des défaillances dans le contrôle a posteriori des euthanasies pratiquées dans le pays. Dans un arrêt rendu mardi 4 octobre, bon là c'est l'UH à condamner, il s'agissait pour la première fois que la CEDH se prononçait sur une affaire questionnant une législation autorisant l'euthanasie. Alors que la jurisprudence de la CEDH est très favorable à des nouveautés biologiques, enfin médicales, type la GPA est autorisée. Hein, bon, par exemple. Alors, d'après l'agence France Presse, le pays a comptabilisé 2700 euthanasies en 2021. Cela concernait en majorité les personnes de 60 à 89 ans. Et dans 84% des cas, le décès était attendu à brève échéance. Donc voilà, on a là un cas très problématique où l'on s'est dit qu'une maintenant une jeune femme de 23 ans peut demander à être euthanasiée, et si elle est française, la personne peut se déplacer en Belgique, hein, bien, pour souffrance psychique insupportable.
Elle ne rencontre pratiquement pas d'obstacles.
Oui, elle ne rencontre pas d'obstacles, eh bien dis donc. Alors là-dessus, dans Hérodote, une livraison du mois d'octobre, la revue d'histoire qui a été fondée par André Laranet, enfin un historien nationaliste, qui est quand même très bien documenté, qui est quand même intéressant. André Laranet, à juste titre, a adjoint un article, une recension d'un film japonais. Au Japon, ils ne sont pas tendres. Hein, antérieurement, c'est... vous réussissez les concours et pour l'emploi à vie ou à Rakiri. Et au Japon, il y a un taux d'internement colossal.
Ah oui.
C'est le pays de l'OCDE, des pays avancés, qui interne le plus. Pour une population d'à peu près 100 millions d'habitants, 300 000 internés. C'est énorme. Avec une DMS, une durée moyenne de séjour de type 1 an. Bon, la France s'y connaît pas mal. Au niveau européen, la France, bien, docteur Patrie,
se situe bien dans le
peloton de tête.
Ouais. Et là, au Japon, il y a aussi donc un problème de vieillissement de la population.
Oui, oui, oui. C'est l'ensemble des pays occidentaux sont affectés par la dénatalité et le seul continent du monde qui connaît un boom démographique non encore limité, c'est l'Afrique.
Oui.
C'est l'Afrique. Cependant, d'après des statistiques des statisticiens mondiaux, enfin au niveau de la population mondiale, la population mondiale devrait connaître une décroissance à partir de 2050, puisque de toute façon, la natalité africaine devrait se limiter objectivement par l'occidentalisation, je pense. Hein, voilà. On sait que les femmes immigrées des civilisations africaines, des diverses civilisations africaines immigrées, même résidents par exemple en Afrique du Nord, ont limité leur natalité. On est passé par exemple en Afrique du Nord d'une natalité moyenne statistique de à peu près 5 à 6 enfants par femme il y a 40 ans à 3-4. Hein. Voilà, donc de toutes les façons. Et les femmes migrantes des diasporas, différentes diasporas africaines en Europe adoptent les modalités européennes. Donc voilà. Enfin, il ne reste pas moins qu'on sait que, par exemple, la démographie française reste soutenue par les foyers migrants. Hein, c'est sûr qu'il y a un problème sur ce plan-là. Mais c'est toutes les puissances occidentales. Donc, plan 75 de l'euthanasie, du droit de mourir à l'euthanasie contrainte. Le président de la République française a jugé urgent de remettre en chantier la loi Leonetti relative à la légalisation du droit à mourir. Celui-ci est déjà pratiqué dans plusieurs pays occidentaux. Le Canada... Alors, attendez, oui, ça, c'est mal imprimé, ça. Donc, il faut... C'est mal imprimé.
Sinon, je pourrais le lire à l'émission...
Non, pas de problème. Mais je vais sortir le.
Parce que je l'ai aussi, moi, sur le.
Oui, non, mais sauf que le tirage n'est pas bon, c'est le cadrage. Oui. Attendez, c'est Hérodote, voilà, plan 75. Le cadrage n'est pas bon, tu vois.
C'est un article de quel...
Hérodote. Ah oui, si tu veux, la fin de ligne n'y est pas. Donc, un film japonais, plan 75, de septembre 2022, entrevoit les dérives auxquelles peut conduire ce droit associé à de basses préoccupations comptables. Adopté à l'unanimité en avril 2005 par l'Assemblée nationale, la loi du député et médecin Jean Leonetti... Ah bah oui, c'est vrai que la loi Leonetti est de 2005, hein. Et le complément est de 2016. Proscrit l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation artificielle de la vie du patient. Elle autorise l'arrêt d'un traitement sur avis collégial si ce traitement relève de l'obstination déraisonnable. Elle impose le respect des volontés du patient quant à l'arrêt d'un traitement. En 2016, la loi Clonity-Claes a modifié à la marge ces dispositions afin que les personnes en fin de vie puissent s'éteindre aussi sereinement que possible. Et jusqu'à ce jour, la société française s'est accommodée de ces dispositions. L'affaire Lambert a secoué le dispositif en 2019. Hein, ça a été bon. Si elles sont encore mal appliquées, cela n'a rien à voir avec la loi, mais relève de l'effondrement du système de santé à un enjeu politique d'une autre ampleur. Pour une frange progressiste de la classe politique, toutefois, il importe d'aller beaucoup plus loin vers le droit à mourir. Il s'agit de donner aux médecins l'autorisation d'administrer un traitement létal aux personnes qui souhaitent éviter les tourments de la fin de vie. Cette revendication cache la peur d'une société écrasée par le fardeau de ses vieillards. Je rajoute aussi de ces inutiles. Bon. La cinéaste japonaise Shie Ayakawa craint qu'elle ne débouche par paliers successifs sur la tentation inavouée de libérer des ressources pour la fraction saine de la population. Elle s'en est fait l'écho dans un film lumineux tout en finesse, douceur et compassion, sans une once de violence. Tous les personnages de Plan 75 sont aimables, mais ils n'en participent pas moins à un dispositif glaçant. L'idée du film serait partie d'un fait divers, l'assassinat en 2016 de plusieurs vieillards dans une maison de retraite par un tueur en série. De fait, le Japon ayant devancé tous les autres pays dans la transition démographique, il connaît aujourd'hui le pourcentage de personnes âgées le plus élevé du monde, 29% de plus de 65 ans. Il s'ensuit que les jeunes actifs se voient privés d'une part croissante des fruits de leur travail au profit de leurs aînés, d'où le désespoir de certains d'entre eux. La cinéaste imagine donc que le gouvernement vote le droit à l'euthanasie pour des personnes de plus de 75 ans. Une administration zélée se met en place pour accueillir et traiter les postulants. Une prime de 100 000 yens, c'est moins que le salaire mensuel d'une aide-soignante, leur est offerte pour qu'ils s'offrent quelques douceurs avant le grand saut. Par Soleil Vert, le film de politique fiction. Le dispositif se révèle si efficace que le gouvernement japonais envisage bientôt de l'étendre aux plus de 65 ans. 75 ans, 65 ans. C'est pas le droit à la retraite, c'est le droit d'en sortir.
Un marché prometteur.
Oui, ils s'en justifient en rappelant que la mesure s'inscrit dans une tradition nationale, l'ubazut, l'abandon des vieux. Cette tradition a fourni le motif d'un chef-d'œuvre du cinéma, la ballade de Narayama, Shohei Imamura, Palme d'Or à Cannes en 1983. Dans les villages très pauvres d'antan, les vieux arrivés à 70 ans se devaient de gravir la montagne et d'y attendre la mort. Dans le même temps, les villageois pratiquaient l'infanticide des filles pour pallier l'absence de contraception et stabiliser la population. Bon. Mais nous n'en sommes plus là et le Japon de Plan 75 baigne dans un confort sans égal dans le monde et dans l'histoire. Ce n'est pas la misère ou la menace de famine qui pousse à l'élimination des vieux, mais l'effondrement des naissances. La population du Japon ne se renouvelle plus depuis 1974 et diminue depuis 2005. Ah oui, donc à ouvrir les frontières, c'est incompréhensible leur truc, vraiment. Vraiment, nous on n'a pas ce problème. Bon. Avec une fécondité proche d'un enfant par femme, un enfant par femme, oui, c'est pas beaucoup. Le nombre de naissances est divisé par deux à chaque génération, tous les 30 ans environ. Il va s'en suivre mécaniquement une quasi-disparition des Japonais au cours du prochain siècle. En attendant, la proportion d'anciens sera appelée à augmenter régulièrement, de sorte que les actifs seront conduits à travailler de plus en plus pour le seul bénéfice des retraités. Les jeunes gens, écrasés par le poids de leurs aînés, seront de moins en moins enclins à faire des enfants et les élever, de sorte que la société s'enfoncera en cycle, en ressort, dans une nuit de plus en plus profonde. Les enjeux sont similaires en Europe, même si dans certains pays comme la France, la chute de la fécondité est masquée par l'immigration. Donc après, on vient nous ennuyer parce qu'il y a trop d'immigrés en France. Alors, celle-ci alimente les emplois de service sans remédier aux besoins d'emplois qualifiés. Bon. Autant dire qu'en l'absence de regain de la natalité, toutes les sociétés modernes seront un jour ou l'autre tentées par un plan 75 qui soulagera à court terme le fardeau des actifs. Et comme dans le film japonais, on s'appliquera à lui trouver des motivations généreuses et progressistes à l'habillage, avec les encouragements du capitalisme financier, prompt à repérer les bonnes affaires derrière les bonnes idées. On retrouve dans Plan 75 une lointaine référence au film Soleil Vert de Richard Fleischer de 73 qu'il faut absolument aller voir, c'est un film génial de politique fiction, que la chaîne Arte a diffusé lundi 10 octobre 2022. Dans un New York surpeuplé et suffocant de chaleur, les vieillards sont ainsi invités à se faire gentiment euthanasier. Il n'empêche que notre situation n'a rien de commun avec la New York de Soleil Vert, même si l'action de ce film est supposée se dérouler en 2022. Soleil Vert est supposé se dérouler en 2022. Richard Fleischer a réalisé dans son film, dans la foulée du livre à succès de Paul Ehrlich, La bombe P comme population, 1968, qui pointait la menace d'un trop-plein d'hommes et du rapport Meadows, 1972, qui craignait qu'à trop prélever de ressources naturelles, nous en venions à replonger dans la misère. Dans les faits, la natalité s'est effondrée dans tous les pays développés après 1974. C'est l'IBG. Ah oui, mais moi je tiens de leur année et des statistiques de l'INED que je suis. Aujourd'hui, exception faite de l'Afrique noire, la population humaine est en deçà du seuil de renouvellement et ne va pas tarder à diminuer. Bon. Nous sommes désormais confrontés à la difficulté de remplacer les anciens dans les fonctions essentielles au bien-être commun, industrie, agriculture, encadrement, éducation. Mais ni cela, ni le réchauffement climatique, ni l'épuisement des ressources naturelles ne freinent notre fringale de communication, de consommation. Pardon, de consommation. Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux en finir quand même avec le consumérisme. Mais bon, ça fait partie du système. Le système capitaliste libéral, c'est le consumérisme. Hein, bon. Nous ne sommes manifestement pas prêts à nous passer de notre SUV hybride Mercedes. T'en as une, toi ?
Non, mais...
De notre iPhone Apple dernier cri, de nos vidéos online, de nos croisières et voyages aux Antipodes, t'en fais, toi ?
Ah, ouais, tous les jours.
De nos cerises du Chili et de nos roses du Kenya. Bien mieux, grâce aux GAFA américains, Google, Amazon, nous disposons désormais de portefeuilles sous-payés pour nous livrer à domicile les artefacts de l'autre bout du monde. Et ceux-là, ils sont souvent très africains. À Paris, ils le sont. Autant dire que notre prospérité insolente est aux antipodes de soleil vert, et si les pays occidentaux les plus avancés en sont venus à autoriser le suicide assisté, c'est pas comme dans ce film pour éliminer des bouches inutiles, mais dans une démarche consumériste. On programme son suicide sans nécessairement être en fin de vie, comme on programme son changement de sexe en se laissant guider par une pulsion individuelle qui a l'avantage de nourrir un juteux commerce. En 1981, déjà, Jacques Attali, alors conseiller du président François Mitterrand, avait entrevu et dénoncé cette tendance dans un livre d'entretien, L'avenir de la vie. Souvent, Jacques Attali dit des choses très intéressantes, quoi que ce soit un libéral ultra, hein, mais c'est souvent très intéressant à écouter. Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera trop insupportable ou économiquement trop coûteuse verront le jour et seront de pratique courante. Je pense donc que l'euthanasie, qu'elle soit une valeur de liberté ou une marchandise, sera une des règles de la société future. La dystopie italienne est devenue réalité dans plusieurs États occidentaux, à savoir 10 États américains, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, mais pas le Japon qui demeure réticent au droit à l'euthanasie. En juin 2016, le Parlement d'Ottawa, et là, on voit que c'est pas simplement terrifiant, a voté la loi C-14 qui a mis en place l'aide médicale au suicide, MAID, Medical Assistance in Dying, peut en bénéficier toute personne qui juge ses conditions de vie intolérables. En mars 2023, la loi pourrait l'étendre aux mineurs matures et aux malades mentaux. D'ores et déjà, au Canada, 5% des décès relèvent de la MAID, la Medical Assistance in Dying, mais les médecins déplorent que des dépressifs et des malades y aient recours alors que des soins appropriés pourraient leur rendre goût à la vie. Le gouvernement progressiste de Justin Trudeau n'est cure de ses réserves. Il préfère écouter ses services qui évaluent à une centaine de millions de dollars les économies annuelles en dépenses de santé générées par l'élimination de ces personnes. Et là, je pense qu'on a le fin mot de l'histoire et qu'on ne peut pas se permettre d'oublier que le plan Action T4 des nazis, qui a fonctionné 40 à 41 dans l'Allemagne nazie, où l'Allemagne nazie a expérimenté le prototype du cyclone B, hein, de ce qui allait être l'élimination notamment des minorités juives, et pas seulement d'ailleurs, hein, aussi, hein, des Tiganes et autres, des résistants aussi, était un plan d'euthanasie. La façade, c'était un plan d'hygiène mentale et d'hygiène sociale, la façade du plan Action T4 de l'Allemagne nazie, c'était un programme d'euthanasie. Donc, cela laisse perplexe quand on sait que durant la pandémie, là, c'est, je pense qu'il y a lieu de prendre ses gardes, même de se sentir révolté. Durant la pandémie, durant le confinement, hein, les malades mentaux stipulés en tant que tels, connus en tant que tels, n'étaient pas admis en priorité en réanimation. Et donc là, il y a lieu de prendre toutes ces gardes et d'y réfléchir attentivement par rapport à ce genre de disposition.
Je suis né dans un petit village, qu'un nom pas du tout commun, bien sûr, entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 10 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer donc, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Pour parfaire mon éducation, y a la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 mômes en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, au rescabili mitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tôt, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Radio Libertaire, c'était François Béranger. François Béranger, tranche de vie. Et voici la dernière partie de notre discussion avec André Bitton sur la jurisprudence en ce qui concerne les directives anticipées.
Dans Dallo's Actualité du 9 novembre 2022, le commentateur habituel sur Dallo's magistrat fait état de 2 jurisprudences de la Cour de cassation, première chambre civile, qui statue habituellement maintenant sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement pour réguler le droit en la matière, du 26 octobre 2022. Donc c'est sur des affaires de délai, les délais étant impératifs, sinon la malvée est acquise. Et puis là encore, on voit que la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence qui est devenue constante, que des déviations de droit formelles, même importantes, même graves, même si le formalisme n'a pas été respecté de façon grave sur la procédure, notamment ou même de contrôle de JLD, que la mainlevée d'une mesure ne peut s'en en suivre contradictoirement à un principe de droit, hein, sur lequel que, toute violation de droit formel porte grief. Ne peut s'en en suivre que si la défense prouve une atteinte aux droits de la personne. Et la notion d'atteinte aux droits de la personne est une notion vaste, c'est-à-dire que l'on doit prouver que la situation même de la personne est incapacitée objectivement au plan tant médical que bon, etc., etc., au-delà de la seule violation de droit formel. Ce qui revient à dire que les nullités de droit formel, même conséquentes, ne sont pas opérationnelles pour obtenir des mains levées. Ça revient à dire ça. Et ça revient à dire que, dans ce cas, on doit faire valoir ce genre de nullité ultérieurement devant le juge indemnitaire pour obtenir quelques menues indemnisations, mais que c'est pas ça qui va garantir la remise en liberté. Alors c'est très ennuyeux, puisque la situation habituelle de l'internement psychiatrique et des rédactions d'actes, c'est que très souvent, ces actes sont rédigés à peu près n'importe comment. Et qu'en principe, en droit formel des libertés publiques, la rigueur de la rédaction et du formalisme d'un acte privatif de liberté, cela garantit les personnes contre l'arbitraire de l'administration. C'est la fameuse maxime d'un juriste allemand du XIXe siècle, Rudolf von Gerin, selon laquelle, ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté, pour reprendre cette maxime. Et là, en l'espèce, donc, alors, cet article 32.16.1 avait été introduit avec la judiciarisation, et dans le but que le contentieux de l'intervention psychiatrique soit unifié dans les mains du juge judiciaire et que l'on en finisse de l'éclatement juridiction administrative, juridiction judiciaire, mais avec ce garde-fou qui avait été introduit par un sénateur, je pense, de droite, très, 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 très bon juriste d'ailleurs, qui après a pris des responsabilités régionales. Mais dans le sens de limiter l'impact des irrégularités, l'impact des nullités. Et là, cet article est rédigé comme suit. La régularité des décisions administratives prises en application sur l'expulsion sans consentement, la régularité ne peut être contestée que devant le juge judiciaire, unification. Le juge des libertés de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa, connaît de la contestation des irrégularités. Bien. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article, devant le JLD, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Alors que le tribunal judiciaire qui statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables connaît de ces irrégularités sans limite, afin d'indemnisation. Et donc là, on en arrive à quelque chose qui est une rétrogradation, qui entraîne d'ailleurs un nombre de mains moindre, hein, désormais. C'est moindre qu'avant, on est tombé de 8 à 9% de mains sur l'ensemble des mesures contrôlées à 7%. Et 7%, notamment la pandémie, d'une part, l'autorisation de la visioconférence, et cela. Cela. Savoir que les avocats peuvent toujours soulever des nullités. Tenu par la jurisprudence de la Cour de cassation, je vous demande de prouver quelle est l'atteinte à la personne que provoque ces nullités. Bien. Alors, cette évolution négative de la Cour de cassation va dans le sens de ce que nous, maintenant, on doit dénoncer, à savoir ce que Jean-Michel Kahn, le docteur Fidesz, l'ancien président de l'AFTAPI, avait dénoncé lors de notre conf du 17 septembre, à savoir que, finalement, la judiciarisation des internements, qui était un véritable espoir, est en train d'échouer. En tout cas, à mon avis, ça n'échoue pas littéralement, hein, quand même pas, mais elle échoue, en tout cas, c'est une avancée qui a été retournée contre les droits des malades. Bien, ça, le film toujours le démontre massivement et généralement, et c'est devenu en quelque sorte d'un outil de libération potentielle qui permet aux patients de parler, aux patients et à la défense des internés de donner un point de vue contradictoire et contraire par rapport à la logique d'internement. C'est devenu un contrôle quasi pénal où les personnes malades sont de fait incriminées.
Et puis ça permet de, justement de
couvrir des irrégularités.
D'avaliser.
Oui, c'est on voilà. Donc, en tout cas, les brèches ouvertes par la judiciarisation sont incontestables. Le droit a progressé, des gens sont libérés, il y a plus de moyens. Le droit, la défense est là sur la table, mais il y a une neutralisation. Et cette neutralisation, elle était en marche dès l'entrée en vigueur. Hein.
Oui.
Rappelle-toi, hein, 1er août 2011, bronca des hospitaliers, dont les gauchistes ou des ex-gauchistes dans la carrière. Il faut boycotter cette loi. Et nous disant, avec notamment le docteur Champagne de la Briolle qui vous appuyait, qui est un hospitalier, disant, mais eux, ils vont boycotter la judiciarisation. C'est pas les programmes de soins, ils vont boycotter la judiciarisation. Et donc, on en est là. Donc, nous avons eu, malencontreusement, nous, on a mené, avec le GIA, une lutte épaisse dans l'ombre, on a pu émerger, mais nous sommes renvoyés les uns et les autres aux marges de la société. Oui, bon, ben, nous, les professionnels, etc. Et donc, c'est ce qui me fait dire qu'avec l'émergence du droit, hein, sur le terrain psychiatrique, l'entrée du droit dans la psychiatrie, se traduit à l'heure actuelle par le fait que des corps de métiers juridiques sont dans la danse, sont rentrés dans le terrain, et en quelque sorte, qui est un marché, de la même façon qu'à l'ouverture des établissements psychiatriques et des institutions dans les années 70, il y a eu un appel d'air considérable. On est passé de 500 psychiatres des hôpitaux à 4500 20 ans après, et on a recruté des fous et des folles de service. Eh bien là, c'est à peu près pareil. Les malades, les personnes psychiatrisées sont, restent et demeurent un marché, et un marché captif. Et ça, moi, j'en veux terriblement au barreau, hein, au barreau qui a cette atmosphère féodale exécrable, qui est majoritaire, très simplement majoritaire chez les professionnels du droit, qui fait que si on a pu percer, si bon moi j'ai bien vu, on a été rejeté, marginalisé, bon moi j'étais un fou de service, bon évacuer le terrain, nous on est, c'est du sérieux, on est les professionnels du droit. Bien finalement la chape paternaliste est retombée. Et là ça se voit. Mais au moins je pense qu'on aura inscrit une nouvelle page de l'histoire de la psychiatrie de manière définitive, en disant désolé, des usagers, des psychiatrisés, des personnes atteintes ou peu atteintes ou pas atteintes de pathologies mentales ayant connu l'intervention psychiatrique, ont inscrit des buts définitifs dans l'histoire de la psychiatrie française. Il y aura eu une parenthèse de quelques années où les uns les autres on aura pu prendre la parole. Cette parenthèse subsiste à travers les programmes expérimentaux, les différents programmes, les sites internet. Il y a une émergence de la parole des psychiatrisés, mais au plan juridique, on est là maintenant limité, contrecarré, neutralisé. Et c'est fort dommage.
Maintenant, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce que les générations prochaines, futures, vont faire de ces acquis dont tu parles, de ces acquis.
Moi, ce que j'en pense, c'est que la brèche est définitive.
Voilà.
La question des droits des malades mentaux, des personnes psychiatrisées, à juste ou mauvais titre, est définitivement une question sur la table, et définitivement une question ouverte, alors qu'auparavant, c'était une problématique étouffée. Et que, de facto, les très vieux conflits qui opposaient les internés aux institutions, familles, etc., qui étaient étouffés, ce conflit qui était sous le tapis, est parfaitement officiel. Et bien, la preuve, les publications, le Paris germano-pratin publicatif avec Carré, enfin tout ce qu'on voudra, s'en est emparé. Maintenant, des écrivains connus, célèbres, racontent leur internement psychiatrique. Oh, que nous étions priés de, avec nos témoignages vulgaires d'évacuer le terrain. Des séries TV portent sur l'I3P, etc., etc.
Oui. Ah oui, c'est incroyable.
Bon. Merci. Donc, en quelque sorte, nous avons les uns et les autres percé mes prières d'évacuer le terrain. Nous, c'est du sérieux.
Merci, André.
Ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, salut.